Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Nous allons commencer à prier pour une famille qui se trouve en Belgique. Donc ils sont, le mari et la femme, tous les deux à l'hôpital pour le Covid. Ouais, voilà, ils sont tous les deux à l'hôpital pour le Covid, à cause du Covid. Donc c'est le frère Frédéric et sa femme. Il y a aussi le beau-père aussi qui est malade aussi. On a un peu parlé avec lui, avec WhatsApp, avec le frère, on a un peu parlé. Voilà. Dieu est toujours fidèle. Il ne faut pas oublier que si nous, on est incrédule, comme il est écrit dans Éphésiens, que lui reste et demeure fidèle. Parce que des fois, on n'arrive pas à atteindre la foi parfaite, mais lui ne demeure pas fidèle. On va prier. Inclinons nos têtes et nous allons nous présenter devant le Seigneur. Bienvenue, frère Stéphane. Que Dieu te bénisse avec toute ta famille et nous tous. On en a beaucoup besoin. Alléluia. Glorieux Père Céleste, c'est une joie de venir dans ta présence. Tu as ouvert le chemin. Tu nous as ouvert le chemin ensanglanté à cause de ton propre sacrifice dans ta chair que tu as fait. Et nous venons à toi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te donnons gloire, honneur et adoration. Et nous savons que tu es ici pour nous, tu es ici présent, là où deux ou trois sont réunis, en ton nom tu es au milieu d'eux. Et tu nous connais tous, un par un. Tu connais les cœurs, les secrets des cœurs, les pensées. Tu sais très bien de quoi nous avons besoin. Et ce soir, nous nous présentons devant toi comme un seul homme, sachant que partout il y a des souffrances, partout il y a des besoins, et en particulier cette famille de Belgique, que tu puisses les assister, les bénir de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Jésus-Christ, et que la guérison soit là, et qu'ils sortent de ce piège. Nous avons foi en toi. Que par tes meurtrissures, par ce sang précieux, par ces blessures que nous-mêmes nous t'avons fait, nous avons reçu la guérison, que ce soit physique ou spirituelle, ou même morale et tout. Merci Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Fais-nous aller de l'avant avec toi. Nous voulons entrer toujours plus dans tes secrets. Toujours plus. Te voir face à face. Parler avec toi. À l'intérieur de nos cœurs et sentir ta présence, sentir ce toucher particulier que tu es avec nous et que tu parles avec nous et que tu t'entretiens avec nous. Dans la joie, dans les difficultés, tu t'entretiens toujours avec nous. Merci Seigneur. Reste avec nous parce qu'il se fait tard. Tu reviens bientôt et nous voulons rentrer à la maison avec toi. Nous voulons rentrer de là où tu nous as élus, de là où tu nous as pris, et retourner là, dans ce monde glorieux spirituel. Nous t'adorons, nous te remercions pour cela. Merci pour ce soir. Révèle-toi à nous. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu nous assiste tous. Nous allons lire une lettre circulaire de janvier 1995. Et je crois qu'aujourd'hui, on va la lire. On va finir. Il y a beaucoup à écouter. Il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à comprendre, à réaliser. Que le Seigneur nous aide. Donc c'est une mise au point. C'est écrit mise au point. quelque chose qui doit être fait avant le retour du Seigneur. Et qu'il y ait la perfection de l'épouse. Et que grâce à la perfection de cette épouse, on arrive à la perfection. Donc nous allons lire cet extrait. Voilà, je vais lire cette lettre circulaire originale traduite en français. Voilà, je vais lire cette lettre circulaire maintenant. Lettre circulaire 31 de janvier 1985. Pardon, c'était 1985, mise au point. À cause des rumeurs qui sont colportées de ci et là, il est nécessaire que la déclaration suivante soit faite. Moi-même, pas davantage que d'autres frères de Krefeld, n'avons ici ou en aucun autre lieu jamais prêché la polygamie. D'autre part, j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé « Comment comprends-tu mariage et divorce ?» Ma réponse a été, et elle demeurera toujours la même, je crois, cela tel que l'Écriture l'enseigne et comme Frère Branham l'a exposé. Malgré cela, il est arrivé que ceux qui avaient fait la demande prétendirent que moi-même ou les frères de Krefeld soutiendraient la doctrine de la polygamie. Cela n'a jamais été, cela n'est pas et cela ne sera jamais. À ce qu'on dit, il subsiste sur ce thème encore et toujours un manque de clarté. Bien que tout ait été dit à ce sujet, chacun devrait commencer et aussi terminer là où la parole de Dieu le fait. Les passages correspondants des Écritures devraient être lus soigneusement en employant le contexte qui l'accompagne. Que Dieu nous donne une oreille attentive afin que tout soit scellé dans nos cœurs. Au fond, nous n'avons pas besoin de l'instruction pour nous aider, mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un profond respect devant Dieu et sa parole. Sans s'en rendre compte, les gens se tiennent loin de ce que Dieu a dit et ils vont reprendre les anciennes traditions. Ce que Dieu a permis à Moïse de dire et ce qu'il a ordonné par le moyen de Paul peuvent être lus dans les Saintes Écritures. La prédication mariage et divorce est également à la disposition de chacun. Selon les paroles même de Frère Branham, tout l'exposé, et non pas seulement le commencement et la fin, était ainsi dit le Seigneur. Nous devrions nous garder d'ajouter ne serait-ce que la plus petite chose ou modifier quoi que ce soit aux déclarations de Frère Branham, pas plus qu'à ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Il n'est même pas nécessaire de faire un commentaire là-dessus. Vous voyez? C'est écrit. Ceci est le problème le plus ancien nous reportant à la séduction d'Ève par le serpent et par là même nous ramenant au premier adultère. C'est la raison pour laquelle le diable fait tous ses efforts pour empêcher la clarté de pénétrer dans le cœur et la pensée des gens. Si, malgré l'enseignement approfondi, un manque de clarté subsiste, cela ne peut être que dans les personnes qui se rendent inaccessibles à la vérité. Vous voyez, inaccessibles à la vérité. Parce que l'amour de la vérité étant dans nos cœurs, ça on le croit, on désire connaître pleinement la vérité et la garder. Et toujours s'en rappeler. Lorsque nous affirmons croire la parole de Dieu, nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons croire ou pas. Je répète, lorsque nous affirmons croire la parole de Dieu, nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons croire ou pas. C'est-à-dire que toi tu dis que tu crois, Alors tu ne peux pas choisir, moi je préfère croire ça, mais ça je crois pas. Non, on croit toute la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est clair pour tout le monde. Et ça a toujours été clair pour tout le monde. Néanmoins, parfois, on cède à certaines faiblesses. Mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en déficit, comment dire. On s'éloigne de ce qu'est la vérité. Et on prend un substitut. Et c'est là que les difficultés commencent. Philippiens 3.1. Lisons quelques passages des Écritures. Philippiens 3.1. Des choses qu'on connaît, mais néanmoins. Quand Paul dit, donc Philippiens 3, chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et c'est votre sûreté. Vous voyez, Paul, ne se fatiguez pas de répéter toujours la même chose, parce qu'il savait, et il connaissait le cœur humain, comment nous sommes faits. On est toujours oublieux, on oublie souvent. Jérémie 23, 17. Jérémie 23, 17. Jérémie 23, 17. Ils disent continuellement à ceux qui me méprisent, l'Éternel dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans l'obstination de leur cœur, ils disent, il ne viendra point de mal sur vous. Car si, qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole? Qui a été attentif à sa parole et a écouté? C'est important de souligner cette parole. Que cette parole soit crue, acceptée et retenue à l'intérieur de nous, sans la laisser fuir, voyez. 2 Timothée aussi, 3.7. 2 Timothée 3.7. Alléluia. 2 Timothée 3.7. À partir de verset 6 plutôt. 2 Timothée 3, 6. Car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses, et qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi ceux-ci résistent à la vérité. Hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi. Vous voyez, c'est important d'avoir l'amour de la vérité. Et un autre verset qui dit, de 2 Thessaloniciens 2, 10, où il est écrit qu'il faut avoir l'amour de la vérité, que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas l'amour de la vérité. Que Dieu nous bénisse. Et comme on l'a lu, le frère Franck avait écrit, c'est la raison pour laquelle le diable fait tous ses efforts pour empêcher la clarté de pénétrer dans le cœur et la pensée des gens. Donc, ça nous fait penser à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, et quand Dieu les a chassés, et devant le jardin, il a mis deux chérubins, afin qu'ils ne puissent plus entrer. Vous comprenez? Afin qu'ils n'entrent plus. Parce qu'ils avaient des difficultés à pouvoir à nouveau gérer, comme ils l'avaient fait dès le commencement, au tout début. Donc il y avait tout un processus. Que Dieu devait intervenir. Il y avait un plan de salut. Un plan que Dieu a établi, il a tué deux agneaux, etc., etc. Donc cette chose est importante. Donc c'est nécessaire de retenir cela. On continue à lire. Lorsque nous affirmons croire la parole de Dieu, nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons croire ou pas. Nous sommes tenus de croire de tout cœur chaque parole de Dieu. Même les choses qui nous font mal. Mais Dieu l'a dit et c'est là. Maintenant on continue. Nous sommes tenus de croire de tout cœur chaque parole de Dieu. Par l'enseignement divin, le simple devient plus sage que les scribes. Donc nous sommes tenus de croire de tout cœur chaque parole de Dieu. Par l'enseignement divin, le simple devient plus sage que les scribes. Ça c'est vrai. Avec l'enseignement divin, un simple devient plus sage que même des scribes. Matthieu, je ne veux pas lire, notez-le, Matthieu 3, notez-le, et lisez-le après. Où il est écrit clairement qu'il y a des choses vieilles et des choses nouvelles. Parce que c'est pas qu'il s'agit de bien parler, des gens qui savent bien s'exprimer, bien parler. Il s'agit de ce qui sort de la bouche et de comment les choses sont dites par l'esprit ou bien si c'est dit par l'intelligence humaine. Des choses totalement différentes. On continue. Comme dans tout enseignement, nous trouvons aussi, pour ce message, des positions extrêmes. Certains prétendent que maintenant, déjà, nous serions corporellement dans l'état qui a précédé la chute. C'est-à-dire que nous aurions été ramenés au commencement avant la transgression. Attention. Ici, on va voir l'explication. Dorénavant, les femmes doivent mettre au monde leurs enfants sans douleur et les enfants de parents noirs doivent rester blancs. Cela signifie que Christ nous a ramenés au commencement. Vous connaissez toute cette histoire-là. Comment frère Branham avait dit concernant la couleur de la peau. Là. Donc frère Franck dit que beaucoup disent qu'ils sont retournés comme avant, comme dans le jardin d'Éden. Mais ça, c'est complètement faux. Ça n'existe pas, tout ça. C'est ce que certains gens prétendent. Est-ce que... Je ne pense pas qu'on va rentrer dans ces détails. Parce que ici, le frère Franck écrit qu'il y a des gens qui disent que les enfants de parents noirs doivent rester blancs. Mais regardez. Regardez après la tour de Babel, ce qui s'est passé. Où est-ce qu'ils ont tous fini? Tous les peuples se sont éparpillés à travers sur la surface de la terre. Et toutes les couleurs sont venues de là. Donc il y en a qui disent qu'on est revenu avant, comme au tout début du jardin d'Éden, mais ça c'est faux, complètement faux. Cela signifie que Christ nous aurait ramené au commencement. Mais ces choses sont exposées d'une manière tellement habile et claire, et pourtant ceux qui enseignent ou croient cela savent que ce n'est pas la réalité, mais que de l'imagination. Cependant, par l'Esprit de Dieu, nous pourrons mettre chaque parole à sa juste place, si nous sommes humbles et sincères. Alléluia. Du point de vue divin, la rédemption est parfaitement accomplie. Donc on revient au début. La mort est vaincue ainsi que l'enfer. Amen. Cependant, l'enfer et la mort existent encore. Ce n'est qu'au retour du Seigneur que nos corps seront transmués. En 1 Corinthiens 15, 54, il est écrit, « Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire. » Alors là, commence à nouveau toute chose comme s'il n'y avait rien eu. Donc, vous voyez cette théorie, cette doctrine-là, fausse, qui était sortie là, tout est faux. D'autre part, certaines personnes ont la pensée que le seul but de la prédication sur le mariage et les divorces aurait été de prononcer le pardon à l'égard des personnes, hommes et femmes, qui, à plusieurs reprises, avaient été divorcées et remariées. Certainement que c'était un point culminant et décisif dans la prédication. Donc, écoutez bien ce qu'on lit, parce qu'à la fin, donc vers la fin de la prédication du mariage-divorce, quand Dieu a parlé directement à Abraham, il lui a dit, je leur pardonne. Tous ceux qui ont fait ça, qui ont eu ces problèmes-là, ces changements de, tous ces chamboulements qu'il y a eu dans leur vie, toutes ces histoires, le Seigneur a tout pardonné, mais qu'il ne devait plus recommencer. Donc, il ne devait plus encore essayer de recommencer à se remarier, délaisser les femmes et se remarier. Donc, voilà. Mais tout a été pardonné. C'est une chose glorieuse. Voilà pourquoi le frère Franck a écrit que certainement que c'était un point culminant et décisif dans la prédication. Un fardeau était enlevé du cœur de tous ceux qui, si longtemps, s'étaient torturés l'esprit à cause de cela. Maintenant, sur l'injonction du Seigneur, la réponse décisive leur avait été apportée, c'est-à-dire que le pardon leur était accordé. Alléluia. En aucune autre rencontre, les larmes de joie n'ont autant coulé, ni la louange ne s'était autant élevée de cœur reconnaissant. Vous voyez? C'est-à-dire que dans toutes les autres réunions, il n'y a pas eu une telle manifestation de reconnaissance, de joie, que quand ils ont entendu que leurs péchés ont été pardonnés. Alléluia. Merveilleux, non? Amen. C'est glorieux. Voilà pourquoi il faut vraiment remercier le Seigneur dans ces derniers temps, parce qu'il nous a révélé toutes ces choses. Cependant, celui qui lit attentivement cette prédication constatera qu'elle contient encore davantage bien des déclarations de frère Branham causent de la peine à certains. Et même les exemples qu'il emploie provoquent des objections de leur part. De l'avis de quelques-uns, ils n'auraient même pas lu les passages bibliques justes. On a entendu de toutes les couleurs. Il y en a qui étaient un peu contre, il y en a qui un peu n'ont pas accepté la position, qui n'ont pas cru, surtout dans le domaine religieux, dénominationnel, etc., etc., vous voyez. Et d'autres proclament tout haut que cette prédication n'aurait absolument pas dû être publiée. Mais tout n'était-il pas entièrement éclairé du point de vue biblique et rendu compréhensible? Pourquoi cela ne devrait-il pas être réel uniquement parce que cela ne conviendrait pas à notre pensée religieuse? L'exposé d'un cas est d'une grande importance pour l'appréciation de ce que l'on doit donner. Les esprits sont partagés, mais aucun de nous ne peut continuer à suivre les ornières défoncées des voies dénominationnelles. Alléluia. Juste. Personne ne peut continuer à faire cela. C'est-à-dire qu'il y a une restauration, il y a une remise au point pour remettre toute chose à sa place. Donc toutes ces choses que les dénominations ont laissées, toutes ces tâches, Dieu a tout réparé, il a tout remis en place. Mais il suffit de le vouloir et de le désirer. Et à cause de cela, nous sommes contraints à considérer toute chose du point de vue biblique, afin de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux. Où et quand il s'agit d'un péché, c'est-à-dire d'une transgression.
Nous devons comprendre une fois pour toutes que le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Sans la transgression de la loi, il n'y a pas de péché. On va encore lire d'autres passages des Écritures, mais d'abord je termine les citations ici. Paul écrit dans Romains 7:7, « Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la foi, par la loi. L'Esprit de Dieu nous convainc de pécher sur la base de la loi et du commandement. » Dans Romains 4:7, il est écrit « Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. » Moi, je m'arrête un peu ici. On relit Romains 3:20. On va lire Romains 3:20, pardon. On va lire ce passage des Écritures. Romains 3:20. 20 et 21. L'Écriture éclaire Romains 3:20. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ, envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Et aussi dans Romains 7:7, on va encore relire, on l'avait déjà lu, dans l'écrit du frère Franck ici, Romains 7:7. Que dirons-nous donc? Romains 7:7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises. Vous voyez? Car sans la loi, le péché est mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir toute la loi. Toute la loi. Alléluia. Voilà pourquoi à travers l'amour et la grâce, tout commandement est soumis vraiment à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité de la parole de Dieu. Mais par amour, par l'amour. Amen. Alléluia. Vous y êtes? Est-ce qu'on reconnaît cela devant Dieu? Voilà pourquoi la loi te fait savoir que tu es pécheur. La foi, la loi te fait voir que tu es péché. Mais la grâce est autre chose. Alléluia. Là où le péché a surabondé, là où la loi a surabondé, eh bien la grâce a surabondé. Donc cette parole, c'est important. Jacques aussi. Et aussi, notez-le. Hébreu de Dieu. Lisons Hébreu de Dieu. Hébreu chapitre 2, verset 2. Hébreu 2, 2. Car si la parole prononcée, donc, un peu plus haut, c'est pourquoi nous devons porter plus grande attention aux choses que nous avons entendues, car de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons à ce grand salut, qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Donc c'est ici. Le frère Franck expliquait ça ici. Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Parce que c'est vraiment ça. Je continue à lire. Donc nous devons comprendre une fois pour toutes que le péché est la transgression de la loi de Dieu. Sans la transgression de la loi, il n'y a point de péché. Paul écrit dans Romains 7:7, mais Jacques 4:12. Il est écrit aussi, dans Romains 4:7, il est écrit, bienheureux sont ceux dont les iniquités ont été pardonnées, dont les péchés ont été couverts. Et un seul est législateur et juge, Jacques 4:12. Il ne peut pas juger par le droit du plus fort, mais uniquement, c'est pas la loi du plus fort, mais uniquement conformément à son propre livre de la loi. Christ est né sous la loi afin de délivrer ceux qui étaient jugés par elle. Il a pris la malédiction de la loi sur lui-même afin que nous puissions nous en aller libres. Alléluia. J'avance, voyez. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu a donné des directives aussi bien pour les choses du domaine naturel, attention, aussi bien pour les choses du domaine naturel que surnaturel. Donc, dans le livre, dans les vieux livres, l'Ancien Testament, Genèse, Apocalypse, et même jusqu'à l'Apocalypse, il y a eu tout ce qu'il fallait. Seulement, parfois on ne comprend pas tout, mais Dieu a tout donné, que ce soit pour les choses naturelles, matérielles, que ce soit les choses spirituelles, surnaturelles. Souvent on prend une direction, mais Dieu voulait nous faire faire autrement. Donc Dieu a donné des directives aussi bien pour les choses du domaine naturel que surnaturel. Aucun d'entre nous ne peut affirmer qu'il puisse déjà comprendre toute chose et mettre à sa place tout ce qui nous est dit dans la parole. Qui peut faire cela? Nous voulons considérer deux passages de l'Écriture qui semblent être parfaitement contraires. Comme nous le verrons, le Seigneur commande des choses dont nous n'arrivons pas à déterminer l'emplacement avec notre seule compréhension. Faites bien attention ici. Dans Genèse 2:24, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Alléluia. On le sait tous, on connaît tout le monde, on sait ça. Mais écoutez bien. Écoutez comment les choses sont merveilleuses. Cette déclaration se rapporte au commencement et fut faite avant la chute. C'est vrai, vous pouvez le lire. Genèse 1. Vous pouvez le lire, tout cela. Immédiatement après qu'Ève ait été prise du côté d'Adam. Le Seigneur Jésus s'est référé à ce passage dans Matthieu 19. Juste. Et ça, on le connaît aussi. Lorsqu'il dit, ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Plus tard, le Seigneur donne de la loi différentes directives, dont, par exemple, celle concernant la libération du serviteur hébreu, dans Exode 21, 2 à 10. Juste, lisons cela simplement. Exode 21, 2 à 10. Juste quelques instants. Exode 21, 2 à 10. Ce sont ici, on commence par le 1. Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années. Et la 7e, il sortira libre gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Donc c'est lui le patron. Et lui, il sortira seul. Mais si le serviteur dit positivement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors, son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Il le servira à toujours, donc il restera esclave de cette personne, lui et toute la famille. Vous comprenez? Donc, vous avez compris cela. Le même Dieu qui a dit, avant qu'il y ait la chute, qui a dit qu'ils seront de seule chair, et qu'on ne peut pas séparer, ici, dans la loi, on dirait que on fait autre chose. On dirait que Dieu fait autre chose, différemment. Mais c'est pas comme... Donc, cette femme que le maître lui a donnée, le patron lui a donnée, il a eu des enfants avec, mais s'il ne veut pas rester esclave, alors il doit abandonner sa femme, abandonner ses enfants, et après ces 6 ans qu'il a servi, alors il devait laisser et repartir tout seul. Donc il y a d'autres passages aussi qui disent qu'on peut lui donner un peu quelque chose pour survivre. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais voilà, le frère Franck continue. La 7e année, il pouvait s'en aller librement. Mais les conditions liées à cet événement sont incompréhensibles selon le point de vue que nous avons aujourd'hui. Le point de vue aujourd'hui. Comment nous, on pense aujourd'hui. Comment on la pense aujourd'hui, en ce moment-ci. Dieu nous connaît. Dieu voit ces choses. En verset 4, il est dit, si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui, il sortira seul. On pourrait demander ici, de quel droit une famille peut-elle être déchirée aussi brutalement? Comment pouvons-nous accorder? Donc, il y a l'explication un peu plus là. Comment pouvons-nous accorder ces deux passages de l'Écriture? Comment pouvons-nous harmoniser ou accorder ces deux passages de l'Écriture? Il n'existe aucun homme sur la terre qui ait le droit de blâmer les décisions du Seigneur. Si l'homme se décidait à rester chez son maître à cause de sa famille, son oreille était percée et par cela, il était condamné à rester esclave toute sa vie. Ça, c'est au verset 6. Retenez cela. Retenez ça. Alléluia. Il est compréhensible que William Branham devait exposer qu'après la chute par le péché, après la chute, pas avant, mais après la chute par le péché, à cause du péché, une autre alliance avait été faite. Ceci est en outre confirmé par d'autres passages bibliques et par la pratique. Vous pouvez trouver dans Esdras 9 et 10 et d'autres passages. Esdras 9 et 10. Il y en a qui pensent tout haut et disent, mais c'était dans l'Ancien Testament. C'est juste et Dieu soit remercié qu'aujourd'hui il n'en soit plus ainsi. Cependant, nous avons affaire au Dieu vivant, car Yahweh de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. En principe, dans une chose aussi importante, ne doit-il pas toujours dire la même chose? Est-ce que la pensée commence à venir? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'il ne devrait pas dire la même chose? Comme on l'a dit juste avant, en parlant aussi de Osée, quand il a dû se remarier sous les ordres de Yahweh, il a pris une prostituée. Vous voyez, il a eu des filles avec elle. Donc il y a beaucoup de facteurs qui semblent incompréhensibles. Donc je continue à lire. Ne doit-il pas dire toujours la même chose? Dans Deutéronome 24.1. Donc, Deutéronome 24.1, le Seigneur permet à l'homme de faire une lettre de divorce à sa femme, mais il n'existe pas un seul endroit où le même droit soit accordé à la femme. Attention, Ça, c'est ainsi dit le Seigneur de l'Écriture. Il n'existe pas un seul endroit où le même droit soit accordé à la femme. En abordant cette parole, le Seigneur Jésus aggrave la chose en disant, « Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme ou divorce de sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. » Matthieu 5, 32. Notez et lisez tranquillement. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas non plus dit, qu'elle puisse faire la même chose avec l'homme. Donc dans le Nouveau Testament, il n'est pas dit non plus qu'elle puisse faire la même chose avec l'homme. Frère Branham insiste toujours à nouveau sur le fait que les choses suivent leur cours de la même manière. Que ce soit dans Matthieu 5, 32, Matthieu 19, 9, 1 Corinthiens 7, 10, ou dans quelque autre passage que vous preniez, nous voyons que partout aussi dans le Nouveau, Testament, la différence ressort clairement entre l'homme et la femme. Alléluia. Comprenez? Que cette chose puisse être scellée ce soir dans le cœur de manière définitive. Il n'y a qu'une exception. Paul écrit aux Corinthiens au sujet d'un couple dont l'un est incrédule. Mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas. Mais, vous avez compris, vous avez vu l'esclavage, on parlait d'esclavage tout à l'heure. Mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix. Voyez? Dans ce cas, les deux, le frère et la sœur, sont traités de la même manière. Donc, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils sont traités de la même manière. Et l'unique différence, c'est ici, dans ce chapitre. De la même manière, et la responsabilité de la faute revient à la partie incrédule. C'est-à-dire sur la personne qui part, qui s'en va, qui abandonne, qui laisse. Une séparation qui a lieu pour motif de foi constitue l'exception. Visiblement, ceux qui sont concernés n'avaient pas, et donc concernant, il est clair et il est vrai que visiblement, ceux qui sont concernés n'avaient pas été unis par Dieu. Vous voyez pourquoi il est écrit, Matthieu, il est écrit ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare. Vous avez compris cela. Ce que Dieu a uni. Mais quand il y a une séparation, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il y avait à l'amont, en amont. Donc le Seigneur n'était pas là. Il faut le dire. En clarté, toute clarté, Dieu n'était pas là au début. Ok. Paul écrit plus loin. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu ne sauveras pas ta femme? 1 Corinthiens 7, 15 et 16. Vous voyez? Donc, ici j'ai noté ma note personnelle. On a tous une histoire en général, avec beaucoup de nuances. Quand il y a une séparation entre un incrédule, mais entre un incrédule et un chrétien. Il y a toujours de petites nuances comme ça à apporter. Mais des fois, les gens voudraient une recette toute faite. Mais regardez ce que le frère Franck écrit ici. Dieu merci, l'apôtre n'était pas un bavard religieux qui ait eu pour chaque situation la prescription d'une recette brevetée ou qui aurait accabler ceux qui étaient déjà éprouvés. Non. Non, c'était valide pour tout le monde. Donc, c'est la personne qui doit rentrer dedans, qui doit réaliser ce qui était la volonté de Dieu. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Lorsque frère Branham fait cette déclaration, je cite, « Un homme peut renvoyer sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas renvoyer son mari et en épouser une autre. Cela s'accorde parfaitement avec les dispositions données dans les Saintes Écritures. » Exactement ce que les Écritures disent, ce que nous sommes en train de lire. Attention. Déjà en 1933, il lui avait été montré que les femmes abandonneront leur place. De nos jours, il est bien question d'émancipation, d'égalité des droits, et les femmes se permettent des choses dans notre génération qui auraient été impensables durant les 6000 ans qui se sont écoulés. Maintenant, on est tous modernisés. C'est moi qui dis ça, hein, c'est moi qui... Et on a des difficultés à prendre notre propre place, que ce soit l'homme ou la femme. Et on a des difficultés. Je ne vais pas trop vite, donc je vais un peu vite maintenant. Que Dieu soit loué pour toutes les précieuses sœurs qui ont trouvé la place juste vis-à-vis de leur mari. Elles n'ont aucun souci à se faire pour le jour où elles se tiendront devant le Seigneur. Le bonheur et la bénédiction ne leur manqueront pas. Déjà sur la terre, elles jouiront des choses célestes. Déjà sur la terre, elles jouiront des choses célestes. Alléluia. Éphésiens 5. Le Seigneur se présente une épouse, une femme, sans tache, sans rides, sans défaut. C'est son travail spirituel, surnaturel, intérieur, personnel, direct avec Dieu. Comme l'homme a un travail, la femme aussi, afin qu'elle trouve sa place juste. Et l'homme doit trouver sa juste place aussi. Il doit être exactement dans la position biblique. Position biblique, alléluia. 2 Pierre 3,14 aussi. Et puis, il y a Luc 10. Lisons cela. On va retourner là. Luc 10. 41. Luc 10, 41. À partir du 39. Parce que les choses matérielles ont toujours une signification surnaturelle, spirituelle. Donc, Luc 10, 39. Donc, je vais un peu au-dessus. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui... Eux, s'étant assises au pied de Jésus, écoutaient sa parole. Mais Marthe était distraite. Pardon, Marie qui aussi s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe, étant distraite par beaucoup de services, mais étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir ?» Donc voilà. Donc, d'un point de vue personnel, on dirait que c'est juste. Mais Jésus, lui répondant, dit, « Marthe, Marthe, tu as un souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais il n'est besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc, ce type d'écoute, c'est un type de soumission. C'est un type, comment dire, d'être vraiment à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur, le chef de l'Église, et aussi le Seigneur, avec qui est le chef de la femme, c'est-à-dire l'homme. « Je continue, le frère Franck écrit, certainement que la possibilité du divorce n'est pas recommandable à l'homme, sauf, cas échéant, par l'extrême nécessité. Juste. Ici, on parle de l'homme ici. Malheur à l'homme qui cherche un prétexte pour pouvoir faire cela, et malheur à la femme qui contraint son mari à faire cela. Vous voyez? Donc, il y a aussi pour par fornication aussi, que la femme... Donc, les femmes croyantes doivent bien prendre note du fait que Dieu leur a assigné une place dessus, une position, une place de subordonnée. Genèse 3:6. Cela est aussi valable dans le Nouveau Testament. Une position de subordonnée. Genèse 3:6. Une position de subordonnée. Genèse 3:6. Cela est aussi valable dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, 34 à 36. On peut dire la femme sujette ou subordonnée, donc c'est-à-dire la position de la femme que Dieu a voulu depuis le commencement et jusque maintenant et jusqu'à la fin, ce sera ça. Amen. Je continue. Donc Franck écrit, dès qu'elles abandonnent cette position et qu'elles veulent disposer de l'homme, l'ordre divin est jeté sens dessus-dessous. Alléluia. Une femme qui ne sait pas se mettre en chaque occasion sous l'autorité de son mari se place, sans le savoir, sous l'autorité de l'adversaire. On peut lire Genèse, ce qui s'est passé dans 3:6 au Jardin d'Éden. Genèse 3:6. Elle se trouve alors en opposition ouverte avec la parole de Dieu. Et toute sa piété n'est que du pharisaïsme. C'est-à-dire, une actrice. C'est une actrice. Donc il faut discerner que c'est une actrice. Alors, faites attention. Donc, ici, on parle aussi du point de vue de l'Église. Donc chaque chose doit être mise à sa place. Et si toute chose est remise à sa place, je vous garantis que le Seigneur reviendra immédiatement, tout de suite, rapidement. On arrive à la fin. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Donc, je continue. Donc, une femme qui ne sait pas se mettre en chaque occasion sous l'autorité de son mari se place, sans le savoir, sous l'autorité de l'adversaire. Une sœur. Une femme. Et surtout les sœurs. Qui arrive à trouver vraiment sa place que Dieu lui a donnée dès le commencement. Et qu'elle le trouve dans la maison, dans une église. Le Seigneur viendra, je le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tout dépend de ça. Tout dépend de là. Mais on va le voir un peu plus loin. Elle se trouve alors en opposition ouverte avec la parole de Dieu et toute sa piété n'est que du pharisaïsme. Dans cette prédication de frère Branham, mariage-divorce, le Seigneur a averti sérieusement les femmes à ne pas se bercer par la pensée qu'elles sont en sécurité parce que leur mari se serait laissé instruire par elles. Vous voyez, c'est fort ça, c'est fort. Mais c'est la vérité. La vérité, mes amis. Chaque homme sait parfaitement que c'est la vérité. Et chaque femme sait parfaitement que c'est la vérité. Alléluia. On ne peut pas le dire autrement. Aujourd'hui c'est comme ça. On le voit. On continue à lire. Le Seigneur veut faire régner l'ordre et il ne laisse plus rien passer de ce qui n'est pas conforme à sa parole. L'homme doit occuper librement sa position de chef de la femme. Et il doit pouvoir se soumettre à sa tête, qui est Christ. Une femme qui se décapite elle-même se trouve sans tête. Amen. 1 Corinthiens 11. Donc lisons-le ici, 1 Corinthiens. Parce que j'avais déjà écrit cela. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 5. Et toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte déshonore sa tête, car c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée. Car si la femme n'est pas couverte ou qu'elle n'est pas voilée, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupée ou d'être rasée, qu'elle soit couverte ou qu'elle se voile. Car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu ne doit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme. Est-ce que vous ne pensez pas que l'église de Jésus-Christ, c'est la gloire de Christ? Ainsi est la femme envers le mari, la même chose. Voilà pourquoi l'insubordination, l'opposition, la dureté du cœur, c'est comme le comportement d'une église, que ce soit une église locale, que ce soit une femme de manière indépendante, c'est la même chose. Voilà pourquoi tout dépend de cela, le retour du Seigneur. Car l'homme ne procède pas, ou n'est pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Vous comprenez cela? Si vous comprenez cela, parce que dès le commencement, ce passage, je l'ai mis, mais je vais encore le lire maintenant. Dans Genèse 2, si je ne me trompe pas, dans Genèse 2, c'est important que la femme soit la gloire de l'homme. Dieu l'a voulu ainsi. Ça, c'était le plan de Dieu. Le juste plan de Dieu. Genèse 2, 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondît. Donc la femme, Dieu l'a faite pour être vraiment l'aide correspond, donc l'aide convenable pour l'homme, une aide convenable pour l'homme, nette et claire, précis. Alléluia. Comme l'Église, on l'a dit plusieurs fois, comme l'Église est une aide convenable qui convient au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui est la tête et il y a des membres. Vous pouvez imaginer? Voilà pourquoi une femme qui trouve sa place, vraiment, comme on l'a lu avec Marie, elle a vraiment trouvé sa juste position pour la rédemption et pour être proche, pour l'enlèvement. Sinon, elle va faillir. Et c'était ça la chose importante, c'était ça. En Corinthiens, Et pourquoi? Écoutez bien cela. Pourquoi? la position n'est pas encore réellement prise. Moi, je crois cela devant le Seigneur de tout mon cœur. Parce que on ne discerne pas le corps de Christ. On ne discerne pas le corps du Christ. Parce que si on discernait parfaitement le corps du Christ, elle trouverait parfaitement sa place. Et la position juste, afin que Dieu puisse la bénir. Et aussi bénir l'homme ensemble avec elle. 1 Corinthiens 11, 28. Concernant la Sainte Seine. Hein? Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit, mange et boit jugement contre lui-même, ne distinguant pas ou bien ne discernant pas le corps. Vous voyez, ce n'est pas seulement la Sainte Seine, mais c'est la parole de Dieu, réellement la parole de Dieu, parce que c'est le pain de vie. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis ça pour donner gloire à Dieu, au Seigneur, pas à l'homme, au Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il ne discerne pas. Elle ne discerne pas le corps, c'est-à-dire que c'est ça, le mari, et elle a été donnée à ce mari pour qu'elle contribue à l'édification de ce mari, de cet époux-là. Parce que lui, comme chef, c'est le Christ, donc lui doit donner satisfaction à Christ, et la femme doit donner satisfaction au mari. L'homme, c'est au Christ, à la parole. Alléluia. Donc elle ne discerne pas. Et quand elle ne discerne pas, et c'est pourquoi, notez 30, verset 30 très important, et c'est pour cela que plusieurs sont faibles, infirmes et malades et parmi vous et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions ou examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais comme nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. C'est juste cette parole. Amen. Alléluia. Comme c'est important. C'est important. Donc une femme. Donc l'homme doit occuper librement sa position de chef de la femme. Et il doit pouvoir se soumettre à sa tête qui est Christ. Une femme qui se décapite elle-même se trouve sans tête. Elle est sans tête. Elle pense avoir une tête, mais en fait, elle n'a pas de tête. Parce que ça ne lui a pas été donné. Ainsi dit l'Écriture, ça ne lui a pas été donné. Regardez combien de personnes sont dans le pouvoir aujourd'hui, les femmes. Combien de femmes dirigent. Combien de femmes prennent l'autorité. Voilà pourquoi Dieu est en train de terminer le cours de cette terre et le jugement va venir. On le voit, tout le monde, on le voit tous autour de nous. Vous voyez? Elles prennent des places, des postes qui ne lui correspondent pas. Même le service militaire, regarde un peu. C'est terrible cela. Je lis. Frère Franck continue. Combien de femmes passent outre à tous les passages bibliques adéquats? Foulant au pied la parole de Dieu. Et avec tout cela, paraissent-elles spirituelles? Avec tout cela, elles paraissent être spirituelles. La loi civile ne les a-t-elle pas bien sûr placées dans cette grande liberté? Cette prédication n'a en aucun cas pour but d'établir en faveur des hommes une lettre de franchise. Faites attention. Voilà. Cette prédication n'a pas comme but, donc mariage-divorce, hein. n'a en aucun cas pour but d'établir en faveur des lettres, en faveur des hommes, une lettre de franchise ou de liberté, mais bien plutôt de faire en sorte que l'ordre divin soit mis de nouveau en valeur. Il est bien entendu que Moïse, Jésus, Paul et aussi frère Branham ont attribué à l'homme sa place et à la femme la sienne. À chacun, finalement, de savoir occuper sa place respective. Ou son rôle. Je préfère le mot rôle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quel est le rôle respectif? Je vais lire Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. En rapport avec ce que Frère Franck a écrit ici. Ce n'est pas que l'homme doit dire « Je te soumets, je t'écrase ». Non, lui, il a la responsabilité. Éphésiens 5. 23. Éphésiens 5, 23. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée. Lui le sauveur du corps, le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient à leur mari en toutes choses. Vous voyez? Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Donc, la difficulté, elle est réciproque. La difficulté de rôle, dans les rôles, donc, d'une certaine manière, parce que la femme a des difficultés à se soumettre. La femme a des difficultés à dépendre du mari, comme l'homme a des difficultés à aimer comme Christ l'a fait. C'est vrai, c'est juste. L'homme a difficulté à aimer comme Christ le fait. Donc les deux doivent se rencontrer parfaitement dans leur juste rôle, dans leur propre position. Et là, il y aura une bénédiction grande. Voilà pourquoi, donc je termine ici la lettre circulaire ce soir. Donc le frère Franck écrit, nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, 7 à 9, car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Juste. Dieu l'a fait comme ça. Parce que il a donné, Adam a donné des noms à tous les animaux, mais là, il était seul à l'époque. Alors, Dieu lui a donné l'aide. Voilà pourquoi. Dimanche, si je ne me trompe pas, on a dit que chaque homme a la femme qu'il mérite. Vous croyez ça? Moi, je crois que oui. Moi, je le crois vraiment. Comme j'ai eu une première femme, et maintenant, elle est retournée avec le Seigneur, maintenant, cette femme ici que j'ai, voilà. C'est comme ça. Donc, on mérite pour nous, afin que chaque chose soit bien à sa place. La femme, l'épouse doit trouver sa place, et l'époux, le mari, doit trouver sa place, son rôle de chef, et la femme, son rôle d'aide qui est convenable à l'homme. Alléluia. C'est pas glorieux, cela? Pour moi, c'est glorieux. Donc, soyez attentifs et allons de l'avant. Donc, on continue. Là-dessus, l'apôtre dit que la femme doit porter de longs cheveux en signe de l'autorité à laquelle elle est soumise. Donc, on se réfère à 1 Corinthiens 11, parce que c'est seulement comme ça Il y a longtemps, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que signifiaient les longs cheveux pour la femme. Et il commence à couper un peu, mais en grec il est écrit, c'est pas la longueur ou quoi, non. Donc en fait ils ont commencé à chercher en grec et tout ça, mais en fait c'est pas question de l'allemand, du grec, c'est pas question de ça. C'est que seulement la Bible dit qu'elle ne doit pas couper les cheveux, et la Bible dit que derrière cette position de la femme, si cette chose-là n'est pas faite selon les Écritures, c'est une rébellion. C'est totalement de la rébellion. Parce qu'elle n'est pas soumise au chef. Parce que derrière ces cheveux longs, qui doit être comme une couverture de sa tête, c'est une soumission à sa tête. Et si elle ne le fait pas, ça veut dire, voilà, qu'elle est sans tête. Disons-le clairement, elle est sans tête. Et c'est vrai. La sienne personnelle, mais pas la tête du mari, alors qu'elle devait avoir la tête du mari, du Christ et du Seigneur. Amen. Alléluia, c'est important. Il ne voit pas que derrière, il y a un esprit, il y a une action, il y a une révélation qu'il faut avoir. C'est ça qui est important. C'est la révélation que Dieu donne derrière ce symbole des longs cheveux pour la femme. Frère Branham dit que si une femme se coupe les cheveux, son mari peut la renvoyer et en épouser une autre. Cela montre le sérieux de cette chose. La désobéissance est pareille au péché de divination. C'est à Samuel, c'est écrit. La désobéissance est pareille au péché de divination. Il ne s'agit pas ici d'opprimer qui que ce soit, mais bien de faire triompher le droit de Dieu et de faire en sorte que toutes choses soient ramenées à leur juste place. Vous voyez, derrière, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand il y a une rébellion, il y a une séduction. Mais Dieu veut nous reporter à l'origine. Et la femme, alors là, c'est pour ça qu'elle ne doit pas gouverner. Elle ne doit pas avoir l'autorité de gouverner. C'est pas écrit, c'est moi qui l'ai dit. Et je vais vous dire pourquoi. Celui, attention à cela, soulignez cela, que le Seigneur scelle ses paroles ce soir et que ce soit une bénédiction définitive et que ça puisse être imprimé dans le cœur et y rester. Et ceux qui écouteront plus tard, que ça soit une bénédiction. Et une remise en place, une remise en ordre, de se remettre en cause. On dit comme ça, se remettre en cause. Oui. Donc, c'est-à-dire se confronter avec l'Écriture et se remettre en ordre. Celui qui n'est pas prêt à entreprendre un changement de cap pour revenir à ce qui est biblique n'aura pas part à la dernière visitation divine. Je m'arrête quelques secondes et je vous regarde tous. C'est important. Est-ce que vous pensez que c'est important, cela? La juste position, le juste rôle, comment dire, la juste obéissance, l'amour, parce qu'on parle de l'amour, en fait, mes amis. Il s'agit de cela. Donc, c'est important qu'il y ait un changement de rôle. Qu'est-ce que le frère Franck veut dire ici? Il n'a pas expliqué, mais selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous aider un peu. Le message divin, c'est la restauration. C'est la pleine restauration de la parole de Dieu. Malachie 4, 5, etc. On peut entrer comme vous voulez, mais on n'a pas le temps. Mais voilà, on n'a pas la possibilité de le faire, mais c'est ça. Voir. Voilà pourquoi l'un sera pris, l'autre laissé. Attention, je le dis sur la base de la parole. Je voudrais que ma femme vienne avec moi. Et toi, tu veux que ta femme vienne avec toi. Et le frère aussi, il va vouloir à tout prix que sa femme partent avec lui. N'est-ce pas? C'est vrai. Alléluia. La parole de Dieu est précise pour tout le monde, hommes et femmes. Je continue ici. Frère Franck continue. On peut bien dire aujourd'hui qu'il est bon que Paul et frère Branham ne soient plus au milieu de nous. Sinon, il n'y aurait presque plus de sœurs qui viendraient les écouter. Car on entend dire que c'est seulement elles qui étaient visées dans les prédications. On dirait qu'il frappait sur les femmes, mais c'était pas ça, c'était pas ça. C'est pour ça qu'on disait que frère Branham était misogyne, tout ça, comme ayant ce défaut. Mais tu parles toujours contre les femmes, mais il était prophète et il voyait clair. Il avait la vision claire. Il avait des visions claires. Cependant, toutes les sœurs qui se plient sous la puissante main de Dieu viendront encore volontiers. Vous savez, si vous dites ça, il y en a qui vont... Je ne parle pas de nous ici, hein, je parle en général. Les femmes vont se lever, vont partir. Non, moi je veux continuer à faire comme je veux. Moi, si je commence à me dire ça, je n'accepte pas, je pars. Ça devient grave. Ça signifie que dans son cœur, il n'y avait pas l'amour pour la parole et pour Christ. C'est évident. Évident. Voilà la souffrance de notre Seigneur qui attend que toutes choses soient mises à sa place. Ça, c'est une souffrance. Et on souffre tous. On est tous en train de souffrir à cause d'une femme, à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un qui ne remplit pas son rôle. On est toujours en train d'attendre. Lisez, regardez. Oh, quand sera-t-il donc lorsque cette céleste harmonie s'installera parmi nous? Notre bien-aimé frère Branham a été en toute chose 100% en accord avec Paul. Il dit, c'est pourquoi Dieu ne lui permet pas d'enseigner. Elle ne peut pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Même si elle peut l'avoir avec son instruction, mais radicalement, par la volonté de Dieu, par la position de Christ, elle ne peut pas avoir ce rôle d'enseignante dans l'Église. Et il ne lui laisse rien faire dans l'Église. Si ce n'est d'être assise en silence, c'est-à-dire les cheveux longs, la tête couverte, la couverture ce sont les cheveux longs. Cette déclaration peut être comparée avec 1 Timothée 1, 11 et 12. Vous voyez? On peut lire cela, 1 Timothée 1, 11 et 12. Donc lisons 1 Timothée 1, 11 et 12. Lisons 1 Timothée 1, 11 et 12. On va lire à partir du 8. 1 Timothée 1, 8. Mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques, pour les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la sainte doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Paul dit ça. C'est-à-dire, il se présente comme ayant cette autorité, cette conduite. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établissant dans le service, donc m'ayant m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux, mes miséricordes m'ont été faites parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et on peut continuer, mais on ne va pas le faire. On rentre dans le sujet de la foi. Donc il y a un manque, on parle aussi du manque de foi. C'est un manque de foi. Alléluia. Donc, il y avait aussi 1 Timothée 2, 11 aussi. Vous pouvez lire à partir du verset 9, moi là j'ai lu plusieurs fois. 1 Timothée 2, 11, que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, d'user d'autorité sur l'homme. Donc je continue ici, frère Franck écrit, ici. Donc voilà, je continue. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc ici, le frère Franck, il écrit, pour toutes les femmes, c'est l'A, B, C. Dieu est saint et c'est de sa bouche que sont sorties toutes paroles des Saintes Écritures. Là où sa parole pénètre l'âme et l'esprit, il est révélé le fruit correspondant dans la vie de chaque jour, dans la vie conjugale et aussi dans l'assemblée. On a parlé de l'âme, hein, dimanche. Vous voyez comment c'est nécessaire que les sentiments, c'est-à-dire le cercle de l'esprit, donc il y a la mémoire, les sentiments, les affections, toutes ces choses-là, les 5 sens. Comme il y a 5 sens pour la chair extérieure, il y a aussi 5 sens intérieurs. Mais ces 5 sens-là entretiennent ou gardent, disons, cet esprit-là. Il garde les gens dans cette position-là, mais ce n'est pas juste. Mais l'esprit, c'est une entrée. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est le libre arbitre. Voilà pourquoi la prédication du pupitre, c'est pour tout le monde. Et ça va toucher l'esprit. Et en touchant l'esprit, on peut ouvrir comme on peut fermer. Voilà pourquoi on dit qu'il y a la liberté. Vous voyez? On peut dire beaucoup de choses là-dedans. Mais quand on ouvre l'esprit, quand l'esprit s'ouvre, la matrice s'ouvre et ça rentre. Même, et avec, ça rentre avec le Saint-Esprit, avec le baptême, la nouvelle naissance, l'adoration, tous ces sentiments, toutes ces choses-là, et ça vient à l'intérieur jusque dans le lieu très saint. Et ça rentre dans l'âme. Et l'âme est changée. L'âme est scellée. L'âme vit seulement de la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. C'est comme l'air qu'on respire. On ne peut pas passer à côté de l'enseignement, à côté de l'instruction que Dieu donne. Et la femme doit l'accepter volontiers. Elle l'accepte volontiers. Et je parle aussi du point de vue de l'Église, mais pas que de la femme, aussi de l'Église. Elle reçoit toutes les instructions et elle a la soif et la faim. L'abîme appelle notre abîme. Elle désire manger. C'est comme si vous êtes dans le désert et vous êtes assoiffé dans le désert de ce monde. Et petit à petit, il y a l'eau qui arrive. Petit à petit, il y a de l'eau. Là, c'est glorieux pour moi, frères et sœurs. Quand la parole peut vraiment entrer dans l'âme, il peut la changer. Et de là, elle ne sortira plus. Et là, la parole ne sortira plus. Ça, c'est le seau qui arrivera jusqu'à destination. Alléluia. Il n'y aura pas de doute. Donc, Saint Franck écrit, là où sa parole pénètre l'âme et l'esprit, et révélé le fruit correspondant dans la vie de chaque jour, dans la vie conjugale et aussi dans l'assemblée. Nous sommes subjugués par l'amour de Dieu, au moyen duquel il nous parle en toutes choses avec sérieux. À la fin, cependant, tout doit être amené à sa juste position. Avant cela, le Seigneur ne peut ni se révéler. ni se révéler ni revenir. Actes des apôtres 3, 21. On lit et on termine. Je répète cette phrase. Donc, à la fin, cependant, tout doit être ramené à sa juste position. Avant cela, le Seigneur ne peut ni se révéler, ni revenir. C'est quelque chose que Dieu veut maintenant, dans ces derniers temps, dans ce moment-ci, dans ces temps difficiles dans lesquels le monde va de travers, avec cette peste qui fait des dégâts, des désastres. Dieu veut travailler dans les cœurs, afin que ça se passe dans ça, que ça a lieu dans l'épouse de Jésus-Christ. Vous croyez? C'est un travail que Dieu est en train de faire. C'est un travail que Dieu est en train de faire. Je le crois parfaitement. Regardez combien de personnes, avec ce lockdown, avec ce confinement, avec combien de maris et de femmes, il y a des mariages qui semblaient sains, bon, mais du fait d'être ensemble, de rester ensemble, ça fait des étincelles. Mais au contraire, pour l'épouse de Jésus-Christ, quand l'homme et la femme sont plus ensemble, c'est le contraire. Ils se connaissent mieux, ils s'affinent mieux et ils mettent mieux les choses en place. Ça, c'est vrai. Alléluia. Ça, c'est juste. Combien de mariages ont fini dans la séparation et même des meurtres. Parce qu'ils étaient ensemble. Parce qu'ils devaient être ensemble. Tant que l'autre allait travailler, tant que la femme et l'homme allaient travailler, ils se rencontrent le soir, ça allait encore. Tout va pour le mieux. Vous voyez? Mais une fois qu'ils étaient obligés de rester ensemble matin, midi et soir, là, mais comme le corps du Christ doit rester ensemble, les sœurs et les frères doivent rester ensemble dans le corps du Christ. Vous y êtes, c'est une bénédiction. On ne devrait pas rester séparés tout le temps. Je lisais Actes des Apôtres, un passage qui est très connu, mais qui est très important. Vous voyez combien de choses sont liées avec ce passage des Écritures. Actes 3, combien de choses? Regardez, Actes 3, 21. Voilà, on va terminer bientôt. Actes 3, 21. Ou à partir du 19. Repentez-vous donc et vous convertissez. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rite. Donc le Seigneur ne peut pas revenir. Tant que, on l'a lu ça, hein, lequel il faut que le ciel reçoive. Nous, on désire, de tout notre cœur, on le désire de toute notre âme, qu'il revienne. Mais Jésus sait pourquoi il ne revient pas maintenant. Il le sait parfaitement. Voilà pourquoi il ne veut pas, il n'a jamais voulu que personne ne se perde de tous ceux que, avant même que le monde fût, ils étaient établis. Là-haut, ils étaient écrits dans le livre de la vie et de l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Ils étaient insérés à l'intérieur. Les noms étaient écrits par le sang du Christ, par le sang de l'agneau, sculptés par le sang de l'agneau. Et il n'en perdra aucun, mes amis. Absolument pas. Il n'en perdra pas un seul. Notre foi, notre force, notre foi, c'est en cela. Voilà pourquoi il faut insister. Paul dit, je n'ai pas peur d'insister. Et si je le fais, c'est pour votre bien. Et ça, c'est vrai. Amen. Jusqu'au temps
3, 20, 21. Lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Donc toutes les personnes, la femme et aussi l'Église, doit atteindre cette position. Elle doit arriver à cette position-là du rétablissement de toutes choses. Le Seigneur merveilleux, parce qu'il a tout fait de façon que toutes choses reviennent à sa place. Voilà pourquoi plus que jamais, nous avons sur un plateau d'argent et à portée de main toute la révélation de Jésus-Christ, toute la parole de Dieu révélée, tout le conseil de Dieu, tout le plan de Dieu pour ton bien et pour mon bien. Et il faut le prendre, on ne doit pas hésiter, il faut l'accepter, il faut se soumettre. On commence par le baptême, on continue dans la justification, on continue dans la sanctification, et on continue avec le baptême de l'Esprit. Mais ça doit être complet, c'est-à-dire scellé à l'intérieur, de manière harmonieuse et coordonnée avec la parole de Dieu. Alors là, on peut partir avec le Seigneur. Vous y croyez? Alléluia. Ça, c'est la vérité. Moi, je crois cela de tout mon cœur. Voilà pourquoi beaucoup d'erreurs ont été faites. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de situations difficiles. Vous savez, de ce mariage et divorce, on en a dit de toutes les couleurs. On en a entendu de toutes, beaucoup de séparations, d'abandon des femmes. Et même les femmes qui reprenaient des jeunes, des hommes qui reprenaient des jeunes aussi, c'était vraiment une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé conseil à Dieu. On voit encore maintenant les marques, les blessures de ces choses, des traces de ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous a permis de nous éloigner de ces choses et de recommencer tout à nouveau, afin que Dieu puisse se manifester parmi nous. Donc je termine la dernière phrase. À la fin, cependant, tout doit être amené à sa juste position. Avant cela, le Seigneur ne peut ni se révéler ni revenir. Christ attend dans le ciel jusqu'au moment où le résultat divin du dernier message prophétique aura été concrètement révélé. On l'a lu. Donc le message doit se concrétiser. Il doit y avoir de l'espace pour l'amour, la concrétisation de ces choses. Je peux dire ceci. Regardez une jeune fille. Une fiancée. Une jeune fille fiancée. Au commencement, tout au commencement, il y a l'attraction, il y a l'amour. Donc ce qui les lie, c'est l'amour l'un vers l'autre. On est tous passés par là. Maintenant, au fur et à mesure du temps, une fois mariés, donc cet amour commence à diminuer. L'âge de l'Odyssée arrive. Donc moi, je le compare avec l'âge de l'Odyssée, il y a les 7 années, les 7 âges qui sont passés. Maintenant, de quoi, on dépend de quoi maintenant? Est-ce que ça ne dépend pas de l'amour que tu as envers le Seigneur, envers Christ, envers la parole? C'est ça l'amour. C'est là que tu démontres que tu aimes vraiment Dieu. Pas avec la bouche, mais avec l'obéissance. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire ça? Nous tous, on parle de l'obéissance. Avec l'obéissance envers la parole de Dieu, tu démontres que tu aimes vraiment. Oh, l'amour, c'est des bijoux, un bouquet de fleurs, une bague. Non, non, non. Bon, ça, c'est une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas du tout l'amour. Vous comprenez? Faites attention. Ne confondez pas les choses. Ça, c'est un autre amour. Alléluia. Le vrai amour envers la parole de Dieu, c'est autre chose. Ça te porte à obéir, à louer son nom, à t'accrocher à la foi, à savoir que le Seigneur est avec toi, que tu dois résister au diable, et il va s'éloigner de toi. Vous voyez ? L'amour est lié avec beaucoup de choses, tant de choses. Ça te fait aller au-dessus, ça te fait dépasser des discordes, des situations. Ça te fait aimer plus ton frère, ça te fait aimer plus ta sœur. L'amour est là. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Il est 9h44. Et on termine maintenant. À Dieu soit vraiment toute la gloire. La gloire est à lui. Ce sont des instructions ici pour notre âme, pas pour notre tête, mais pour notre âme. Alléluia. Une fois entré dedans, ces choses ne vont plus partir. Vous me croyez si je vous dis que ces choses, je les ai déjà prêchées. Quand je lis, je le dis de tout mon cœur à l'avance, et il y a le passage qui vient, je vais le chercher, et puis après, donc petit à petit, et puis après, je vois que le frère Franck a pris le même passage que moi j'avais pris avant. Mais c'est une grâce. Mais c'est simplement une grâce. Et je suis très content. Je suis content d'avoir marché, de continuer à marcher avec le Seigneur, avec toute franchise. J'ai encore beaucoup de choses qui me manquent. Enfin, la communion me manque. Et tout le reste. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur a parlé avec nous ce soir. Ça n'a pas été Franco Forestieri, ni frère Franck, mais le Seigneur, l'Esprit Saint. Voilà. Le discernement. Qui a parlé, l'homme ou Dieu? Merci Seigneur. On devrait être joyeux de se présenter devant notre Seigneur, devant le trône de la grâce. Le trône de la grâce est opportun pour nous tous. Et qu'encore aujourd'hui, il puisse bénir nos cœurs avant d'aller au lit. Amen. Inclinons nos têtes. Et sans rien dire à personne, que tout le monde sort de son cœur qu'il doit adorer le Seigneur, le remercier pour tout le bien qu'il nous fait. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre époux, nous t'attendons le jour dans lequel nous allons nous rencontrer face à face. En attendant, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions marcher obéissant à ta sainte parole, obéissant à ta parole, parce que ta parole est la vérité. Comme on l'a lu au début, parfois, on est un peu superficiel, on oublie les choses et on te laisse peu de temps. Mais notre vie dépend de toi. Nos pensées, notre vie, nous voulons qu'elle vive à travers ta parole. Tout ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons pas l'oublier. Nous voulons que tu nous donnes la force nécessaire, la révélation nécessaire, les oreilles ouvertes, le cœur ouvert, afin que tu puisses entrer, afin que nous puissions te servir de tout notre cœur, afin que nous puissions avoir un cœur obéissant, persévérant dans ta parole. Parce que c'est vrai, Seigneur, il y a beaucoup de choses. L'ennemi nous met tellement de choses devant nous que parfois, Seigneur, on a beaucoup de choses à faire et on délaisse cette première place qui t'appartient. Nous te demandons de continuer ton œuvre dans nos vies. Parce que, Seigneur, on se rend compte de ce que, on réalise ce que tu as fait. Et on ne veut pas l'oublier. Et on ne veut pas être superficiel. On veut te donner toute notre vie. Tout ce qui est en nous t'appartient. Nous te remercions pour les paroles de ce soir. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être vraiment une fiancée obéissante. Ou jusqu'au jour où tu vas nous emmener à la maison pour régner avec toi. Mais aide-nous. Nous avons besoin de foi, de force, d'obéissance. On a besoin de toi. Nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, et nous sentons que tu es dans nos vies et que tu continues comme il a été dit. Tu continues malgré le fait que nous soyons un peu indifférents. Mais tu as donné ta vie pour nous et nous t'en sommes reconnaissants. Fais que chacun de nous ait la juste position, homme ou femme, que chacun ait sa juste position pour savoir comme toi tu nous veux. Afin que lorsque tu viens, quand tu viendras, nous soyons trouvés dans la bonne position. En nous laissant modeler par ta parole, qui est une nourriture sainte pour nous. Et tu es le rocher des siècles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on sait que tu ne changes pas. Nos pensées changent. On peut être influencé, mais ta parole ne change pas. Elle est toujours la même. Nous te remercions de tout notre cœur. Seigneur, bénis-nous encore cette nuit. Que nous puissions nous rappeler, nous souvenir de toi, penser à toi. T'aimer toujours plus et être comme toi. Tu veux que nous soyons, c'est ça notre désir. Donne-nous ta bénédiction. Bénis tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui n'ont pas pu aussi se connecter, tous ceux qui écouteront plus tard, accorde-leur ta bénédiction. Aide-nous à prier les uns pour les autres et nous aimer à travers ta parole. Accorde-nous toutes choses. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Te remercions, Seigneur. Comment tu fais du bien à nos âmes. Je te remercie encore parce que tu nous as exhortés ce soir à être conformes à ta parole. Que tu puisses nous aider à devenir matures. Aide-nous à rentrer dans la perfection de ta parole. Tu as aussi demandé de prier pour les malades. On a prié pour eux. Nous voulons aussi prier pour cette famille. Les frères Frédéric, tu les connais. Donne-leur la victoire. Nous leur mettons entre tes mains, Seigneur. Je te remercie pour toutes choses. Dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Oui, Seigneur, te remercie encore une fois, Seigneur, pour toute l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons nous présenter et présenter nos besoins qui sont au sein de ton Église et des familles. Encore pour cette famille de Frédéric Cracknell, que tu puisses encore une fois, Seigneur, allonge ton bras puissant et que rien ne puisse résister parce que rien ne te résiste. Quand tu agis, quand tu allonges ton bras, rien ne te résiste et ton bras n'est pas court, il est allongé pour sauver, pour glorifier ton propre nom au sein de cette génération, au sein de ton peuple et au sein de ton Église. Fais grâce, visite les cœurs. Affranchis-les, donne-leur la force. Tu vois les besoins qu'il y a très profondément dans l'âme. Nous te prions d'intervenir au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, révèle-toi. Révèle-toi comme seulement toi tu peux le faire. L'homme est incapable. Mais toi, avec la puissance de ton Esprit Saint, tout est possible. Oui, Seigneur, nous le croyons. Et nous le croyons. Que tu te révèles, que tu nous fortifies dans la foi. Et que tu donnes à chacun ce dont il a besoin. Oui, Seigneur, reste avec nous. Reste avec ton Église. Encore pour ce dimanche, prépare-nous tous les jours, à chaque moment, que nous puissions rester en communion avec toi. Et vise-nous continuellement, parce que sans toi, nous sommes vraiment finis. Nous ne pouvons rien faire, comme dit l'Écriture. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce soir, pour la perle précieuse que tu nous as donnée, pour cette bénédiction merveilleuse que tu nous as donnée, et comment toi tu rafraîchis les cœurs. Je te remercie. Et nous t'adorons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Le Seigneur vous bénisse tous. Amen.